Le message de ce matin nous ramène pour la deuxième fois dans notre passé commun le plus lointain, sur le lieu des premiers pas de l'homme, le jardin d'Éden. On avait déjà fait une première étude à ce sujet il y a quelques semaines, et je reviens dessus pour aborder un autre aspect. Cette étude vise à comprendre les réelles conditions dans lesquelles s'est déroulé l'épisode de la fameuse tentation, et de la suite qui s'en est suivie. Alors immédiatement, vous pourriez me demander, mais très légitimement, quel est l'intérêt d'un retour à ce passé aussi lointain que sombre, qui plus est nous renvoie à l'échec de l'humanité? Après tout, l'essentiel n'est-il pas la prédication de la mort et la résurrection du Christ? Pourquoi revenir aussi loin finalement? Eh bien, tout d'abord, j'ai constaté que très peu d'entre nous avions exploré ce livre des origines qu'on appelle la Genèse, et qui recèle pourtant de clés importantes pour notre édification spirituelle. Donc ce message s'adresse à l'Église. Il ne s'agit pas d'un message d'évangélisation ni d'exhortation, c'est un message d'édification. Ensuite, une lecture attentive des livres 1, 2 et 3 de la Genèse permet de renouveler quelque peu le regard que beaucoup d'entre nous portons sur cet épisode trouble, confus, voire même tabou des origines de l'homme, histoire certainement refoulée dans notre inconscient profond et donc susceptible de biaiser au final, je le pense, la qualité de notre relation avec Dieu. Enfin, l'étude de ces versets contribuera, je l'espère, à apporter une lumière nouvelle sur les relations existant à l'origine entre Dieu et les hommes, entre les hommes et les femmes, question intéressante, et entre les humains et le tentateur. Donc c'est un programme assez ambitieux, on va démarrer par la partie 1 de cette étude. Alors ce message sera présenté en 2 ou 3 prédications, et nous tenterons aujourd'hui un questionnement à propos de l'identité d'Adam et Ève, avant de nous lancer les prochaines fois dans l'analyse du comportement d'Adam et Ève pendant et après la tentation. Alors, Adam et Ève étaient-ils bien les petits êtres oisifs, fragiles, démunis, naïfs, infantiles, tels qu'on peut parfois se les imaginer? Adam et Ève étaient-ils finalement assez matures moralement et fondés spirituellement pour suivre la voie de Dieu, pour ne pas se laisser séduire par le serpent et ainsi vivre éternellement en présence de Dieu dans le jardin? Après tout, Adam et Ève n'étaient-ils pas au commencement de leur vie, donc trop peu expérimentés et naïfs pour mettre en pratique les conseils de Dieu? Dieu n'a-t-il pas finalement mis la barre trop haut en plaçant l'homme et la femme à la fois devant la mort et la vie? Ne pourrait-on pas aussi voir dans l'avertissement donné à Adam l'expression d'un caprice, d'un Dieu tout-puissant, sans cœur, injuste et méprisant la condition humaine et ses faiblesses? Ne pourrait-on pas penser que le piège était finalement déjà tendu par Dieu lui-même pour que l'homme s'y fasse prendre? Après tout, que peut-on exiger d'un homme et d'une femme qui ignorent jusqu'à leur propre nudité, puisqu'il est écrit dans la Bible qu'ils ignoraient qu'ils étaient nus? Donc, vous vous rendez compte quand même. Ces pensées ont pu traverser l'esprit de beaucoup d'entre nous avant leur conversion et parfois même après, notamment lorsque la marche avec Dieu a pu s'avérer plus difficile qu'ils ne l'auraient imaginé. On peut s'interroger sur l'état du cœur de Dieu à l'origine, dans sa marche, et dire finalement, la barre a peut-être été mise haut, ces pauvres Adam et Ève. Et je crois qu'il nous faut lever tout doute au sujet de l'identité réelle d'Adam et de Ève avant la tentation, ainsi que tout doute au sujet des intentions de Dieu en lien avec cet épisode déterminant du destin de l'humanité. Je pense que c'est très important. À mon sens, ça contribue à la réconciliation qui doit se faire entre Dieu et nous. Vous savez, il y a toujours des phases d'ombre dans notre relation avec Dieu. On s'est repenti, on a saisi le salut de Dieu, mais parfois il y a comme des relents de révolte, des relents d'amertume qui peuvent être là entre nous et Dieu. Et il faut les lever, parce que ça empoisonne notre vie spirituelle. Alors tout d'abord, Genèse 1, versets 26 et 27 nous renseigne sur la nature et l'identité, nous renseigne en partie, hein, sur la nature et l'identité de l'homme et de la femme. Je lis le verset. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà, c'est Genèse 1, 26 et Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, il les créa, hommes et femmes. Il les créa à son image. Alors je ne développerai pas ces versets, mais retenons tout d'abord ici qu'il y a en l'homme et la femme l'image de la gloire de Dieu. Et c'est dire s'il peut être ridicule de considérer Adam et Ève comme n'ayant pas été créés à la hauteur des relations que leur Créateur souhaitait nouer avec eux, ni à la hauteur des conditions d'existence qui étaient les leurs dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, donc à la hauteur de lui parler, à la hauteur de vivre en sa présence et de nouer des relations harmonieuses avec lui. Deuxièmement, dans le verset 15 du livre de la Genèse 3, il est indiqué clairement qu'Adam et Ève est institués administrateurs des biens de Dieu dans le jardin, ce qui n'est pas le dernier des titres, ni le moindre des statuts ou des privilèges. Je lis le verset. Genèse 3, 8, « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. » Genèse 3, 15, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin pour qu'il le cultive, pour qu'il le travaille, selon la traduction, et le garde. » Donc Dieu place dans le jardin l'homme pour qu'il le travaille, pour qu'il le cultive, et pour qu'il le garde. Être administrateur d'un bien, des biens de quelqu'un suppose avoir été estimé capable et digne de confiance de l'être. Dieu responsabilise donc Adam, qui a la charge de cultiver et protéger le jardin, planté par Dieu lui-même. On peut d'ailleurs imaginer que l'accomplissement par Adam et Ève de cette mission devait réclamer de leur part un important investissement en matière de travail, de stratégie, de calcul, de prévision, d'organisation. D'autant qu'à lire un verset que je ne lis, un autre verset un peu plus en amont dans la Bible, d'après qu'à le lire, le fameux jardin apparaît d'emblée comme plutôt vaste, plutôt étendu. Il s'agirait plutôt d'un domaine, voire un pays, puisqu'il nous est dit que des fleuves traversaient ce jardin. Donc on peut s'imaginer la taille de ce jardin. Ainsi, s'il est communément inscrit dans l'imaginaire collectif qu'Adam et Ève vivaient oisifs et errants, sans but réel dans ce magnifique jardin, la lecture du verset 15 du livre de la Genèse 3 nous indique le contraire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, souvent on s'imagine que une fois expulsés du jardin, Adam et Ève ont découvert le travail. C'est absolument faux. On leur a demandé de cultiver le jardin alors qu'ils étaient en Éden. Ils n'ont pas découvert le travail une fois expulsés. Par contre, ce qu'ils ont découvert, c'est le fait de travailler durement. Ils ont gagné leur pain à la sueur de leur front, c'est-à-dire que la terre leur est devenue difficile à travailler, alors que ce qui n'était pas le cas dans le jardin. Mais le travail, lui, il l'avait connu avant. Il savait ce que c'était que le travail. Et je peux vous dire qu'à mon avis, il y en avait dans ce jardin immense. Donc, je complète cette approche. De plus, recevoir un mandat de Dieu pour administrer le jardin renvoie à l'autorité dont jouissaient Adam et Ève dans le jardin. On pourrait aussi dire d'eux qu'ils étaient les fondés de pouvoir de Dieu. Lorsque je travaillais à la banque, il y avait ce qu'on appelle des fondés de pouvoir. Vous savez, un fondé de pouvoir, quelqu'un qui reçoit l'autorité de qui ? Eh bien, je dirais du conseil d'administration de la banque. C'est un fondé de pouvoir. Et Adam et Ève étaient ces fondés de pouvoir-là. Dans Genèse 2, 19, on découvre comment Adam commence à exercer cette autorité reçue de Dieu, ce mandat qu'il exerce sous le regard, je suppose, ravi de Dieu, qui prend plaisir à voir l'homme créé à son image participer à son œuvre. On le lit, ce verset. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. Donc en fait, Dieu se réjouit de voir quel nom Dieu allait donner aux animaux. Et je peux vous dire que donner un nom aux êtres vivants, ce n'était pas une petite responsabilité. D'ailleurs, on voit dans la Bible certains versets qui disent que Dieu connaît le nom de chacun, ou Dieu peut donner un nom à chacune des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de cette capacité que de donner un nom à quelque chose ou à quelqu'un. Donc Adam et Ève ont commencé, sont rentrés dans cette mission qui leur était confiée en donnant un nom aux animaux de la création. Alors si les précédents versets nous renseignent sur les capacités physiques, le travail, capacité physique d'Adam et Ève, leur capacité intellectuelle, leur capacité organisationnelle, de collaboration, etc., sur leur autorité, le verset 16 de la Genèse, livre 3, nous renvoie cette fois-ci aux capacités morales et de jugement, au libre arbitre dont jouissaient Adam et Ève. On passe à autre chose. Je vous lis le verset. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors là me viennent plusieurs questionnements. Pensez-vous vraiment que Dieu ait pu planter au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si cet arbre n'avait pas eu une fonction essentielle au regard du destin d'Adam et Ève? Pensez-vous encore que Dieu se soit réellement contenté de jeter aux oreilles d'Adam cet ordre, une seule fois, de façon lapidaire, sans accompagner cet ordre d'enseignement ni d'explication, connaissant l'enjeu de taille qui s'y rattachait? Non. Pensez-vous que Dieu ait pu honteusement exposer au risque de mort les seuls deux êtres créés à son image et à leur suite l'humanité entière, s'il ne les avait pas estimés en mesure de se déterminer en toute liberté, s'il ne les avait pas dotés du jugement moral nécessaire et des capacités à évaluer les conséquences de leurs actes? Pensez-vous encore que Dieu ait pu risquer de faire plonger des millénaires durant l'humanité tout entière dans les turpitudes, les déboires et les tragédies qu'on lui connaît, si Adam et Ève n'avaient pas eu une pleine capacité à choisir consciemment? Pensez-vous enfin que Dieu leur aurait donné accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal si le respect de l'ordre donné avait été tout simplement insurmontable? Ça aurait été de la folie. Quel père aurait mis en place ce scénario mortel? Qui pourrait faire ça aujourd'hui? Donc, à ne pas en douter, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal a bien été placé en face, au milieu du jardin, à la portée de l'homme et de la femme, c'est que Dieu a dû bien évaluer la situation et a dû estimer que les deux êtres créés à son image étaient en mesure de faire ce qu'il fallait. Sinon, c'est de la folie. On aurait donc un Dieu criminel. Non, je vous rassure, non, pas du tout. Alors, Adam et Ève étaient non seulement dotés d'autorité, du libre arbitre, de capacité morale, de capacité de jugement, mais par-dessus tout, écoutez bien, ils avaient à leur côté, dans le jardin, le plus grand des soutiens spirituels, le plus puissant des alliés contre la tentation et le plus bienveillant des créateurs. Ils étaient entourés, ils n'étaient pas seuls, ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Ils avaient Dieu, la présence de Dieu, à leur côté, ce qui n'est pas rien. Donc Dieu avait tout prévu, Dieu avait créé les conditions d'une vie, je dirais, à succès, d'une vie qui devait normalement aboutir à un succès pour Adam et Ève. Leur accès à la présence directe et palpable de Dieu en faisait certainement ainsi, donc je parle d'Adam et Ève, des êtres particulièrement avertis et instruits au regard des réalités et des enjeux spirituels. D'ailleurs, la Genèse laisse en effet penser que Dieu fréquentait régulièrement le jardin pour s'entretenir avec Adam et Ève et certainement les enseigner comme tout père ou mère le ferait avec ses enfants. Donc n'imaginons pas que cet ordre de ne pas toucher l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal ait été balancé comme ça une fois et puis... débrouillez-vous avec ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, connaissant notre Dieu. Ajoutons enfin que Dieu informe très clairement et directement Adam. Il ne lui envoie pas de messager. Il informe directement des conséquences de la désobéissance. Adam et Ève ne sont donc pas pris en traître par un Dieu qui aurait occulté le danger que les hommes encouraient à consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, ou un Dieu qui aurait minimisé ce danger. Bien au contraire, l'avertissement a été clair. Pour finir, ce message est assez court. Il semblerait qu'il y ait dans le verset 15 du livre 3 de la Genèse l'indice d'une mise en garde précoce au sujet d'un danger susceptible de mettre en péril la vie dans le jardin. Lisez avec moi. Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et pour qu'il le garde. Et pour qu'il le garde. Alors moi, j'ai passé des années à lire sans jamais buter ni m'arrêter sur le garde. je me suis demandé, mais pourquoi, diantre, Dieu aurait-il demandé à Adam et Ève de garder le jardin? Alors, en effet, aussi surprenant soit-il, Dieu demande à Adam de garder le jardin en plus de sa mission première, qui était de le cultiver. Question. Le jardin était-il exposé à l'assaut d'éventuels brigands? Était-il exposé à la fureur de bêtes féroces, susceptibles de le dévaster ou de dévorer ses habitants? Cela paraît très peu probable, au vu de la description qu'on en a. Cette injonction fait-elle écho à la possible intrusion de Satan dans le jardin? Dieu, anticipant les plans de Satan, en avait-il touché quelques mots à Adam, de façon à le préparer à l'inévitable assaut de Satan? Nul ne le sait. Et si l'on se risquait à faire une lecture plus allégorique de ce verset, cultiver le jardin et le protéger pouvait-il signifier pour Adam et Ève cultiver leur relation à Dieu, cultiver leur jardin intérieur et rechercher à y faire fructifier les fruits de l'esprit? Garder le jardin pouvait-il signifier préserver leur cœur de la corruption, y veiller plus que toute autre chose afin que de lui ne poussent des racines d'amertume? Dans le livre de la Genèse 4, verset 23, on lit ce verset: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toujours est-il qu'il y avait dans cet ordre de Dieu de garder le jardin un appel à la vigilance, un avertissement. Le texte ne développe pas plus, mais on pourrait très bien imaginer Adam, dans le contexte, interroger davantage Dieu à ce sujet, afin de saisir le sens exact de ses propos. N'oublions pas que Adam et Ève étaient au contact de Dieu. Ils avaient des échanges. Ça ne s'arrêtait pas à quelques déclarations comme ça. Adam est donc fixé, je le suppose, et averti sur l'existence d'un risque, d'un danger. Il s'agit pour lui et pour Ève de demeurer vigilants, de ne pas se laisser vivre. Jésus a dit « veillez, priez ». Dans la Bible, on dit « veillez, priez ». Jésus avait invité ses apôtres à veiller dans le jardin de Gethsémané. Il s'agit donc pour eux de ne pas se laisser vivre, mais impérativement de garder le jardin confié par Dieu. Alors en conclusion, au travers de cette étude préliminaire, nous avons montré qu'Adam et Ève étaient des êtres actifs, dotés de toutes sortes de capacités, conscients, intelligents, avertis, instruits directement par Dieu, ce qui n'est pas rien, établis en autorité par Dieu, et doté par lui-même des plus grands privilèges statutaires, responsabilisé et libre à la fois, et par-dessus tout, vivant dans l'irréfutable, l'indéniable, l'irréfragable présence de Dieu. Et ça, j'insiste là-dessus parce que il est facile pour nous de dire, mais après tout, où il est Dieu? Après tout, il n'en était pas de même pour Adam et Ève. Ils avaient Dieu, alors je ne sais pas, j'imagine, en tout cas, ils entendaient sa voix. Je ne sais pas si leurs yeux le voyaient, mais en tout cas, au minimum, ils entendaient sa voix. Dans un verset de la Bible, il est écrit que Dieu se promenait par la brise du soir dans le jardin. Alors, s'il se promenait, peut-être qu'on le voyait. Je ne sais pas ce qu'on voyait. Je ne sais pas s'il est possible pour un homme de voir Dieu sans mourir. Mais en tout cas, il y était dans le jardin. Donc, Adam et Ève n'étaient pas simplement des êtres extraordinaires qui n'avaient pas péché, donc sans péché, avec dotés de toutes sortes de capacités, vivant dans des conditions formidables. Ils avaient Dieu dans le jardin. Ils avaient le privilège de voir Dieu les fréquenter. Et ça, c'est un rempart contre quasiment toutes les tentations possibles. Et pourtant. Alors, avoir une représentation claire et juste de ce que Adam et Ève étaient en tant que personnes, nous sera par la suite nécessaire à une meilleure compréhension de leur responsabilité lors de l'épisode de la désobéissance. Beaucoup de personnes ont le sentiment qu'Adam et Ève ont été piégés par Dieu, ont été de pauvres petits êtres exposés à la colère de Dieu, à son piège. Ce n'est absolument pas le cas. Lorsque vous découvrirez avec moi l'étude du passage donc concernant cette tentation, vous découvrirez combien Adam et Ève ont été durs de cœur, combien ils ont été braqués, combien ils se sont ligués contre Dieu et combien ils ont persisté et signé dans leur démarche. Ça n'a pas été rien, hein. Il ne s'agit pas simplement, en ce qui concerne cette tentation, d'un acte compulsif, une erreur ponctuelle. Non. Il y avait véritablement une détermination de faire de leur part. Et c'est ce qu'on découvrira donc au deuxième épisode. Donc je vous remercie, ce message était court. Donc je suis heureux de l'avoir partagé avec vous. J'espère qu'il vous a donné l'envie de poursuivre. Eh bien merci. Que le Seigneur soit loué.